Vous écoutez Radio France Internationale, 6h en temps universel, 7h à Paris.
Édition spéciale sur RFI.
Et bien évidemment, le principal titre de la matinée, c'est ce discours de François Hollande hier soir. Il ne brigue pas un nouveau mandat. C'est le journal. Grégory Lesca, bonjour.
Bonjour Alexis Fricker, bonjour à tous. Et pas de doute que ce 1er décembre 2016 restera dans les annales politiques en France. Pour la première fois sous la 5e République, un président décide de ne pas briguer un deuxième mandat. François Hollande s'est exprimé hier à 20h en direct de l'Élysée. Une intervention qui a pris tout le monde de court. Seuls quelques proches étaient au courant de sa décision. Une déclaration d'une dizaine de minutes, dans laquelle il a d'abord dressé un bilan positif de ses 4 années et demie de présidence. Son seul regret, dit-il, avoir proposé la déchéance de nationalité qui a divisé plutôt que rassemblé. Alors après la surprise, la classe politique a rapidement réagi et commenté cette décision. À gauche, on salue la dignité, le courage du chef de l'État. La gravité de la décision aussi. Emmanuel Macron, lui-même candidat à la présidentielle, semblait troublé hier soir.
Je pense que c'était une allocution extrêmement difficile pour le président de la République. C'est une décision courageuse et une décision digne. Je pense que ce que le président de la République a annoncé aux Français cet après-midi est une décision éminemment difficile à exprimer. Il a lui-même fait état de son bilan, de la situation de la France et de tout ce qu'il y a fait, avec aussi l'état des échecs relatifs et de ses regrets. Et compte tenu du contexte, je crois que c'était une décision courageuse à prendre et il l'a prise, voilà.
Emmanuel Macron, ancien ministre de l'économie, le François Hollande chez nos confrères de RTL. Pour la droite, ce renoncement est avant tout un constat d'échec. Pour François Fillon, candidat de la droite, ce quinquennat s'achève dans la pagaille politique et la déliquescence du pouvoir. Valérie Debord, porte-parole du Parti Les Républicains, salue tout de même la lucidité du chef de l'État.
M. Hollande avait dit qu'il ne se représenterait si la courbe du chômage s'inversait. Depuis que son mandat a commencé, nous avons 1 million de chômeurs en plus en France. Donc il a tout simplement tiré des enseignements de ses engagements. Et effectivement, il était, s'il ne voulait pas se renier, impossible pour lui de se présenter. Donc il faut saluer qu'il tienne son engagement. Après, nous alertons sur les gens qui vont évidemment se présenter pour le compte du Parti Socialiste et qui ont tous, de M. Hamon à M. Valls à M. Macron, gouverné avec lui. Ils sont tous comptables du même bilan que M. Hollande.
Valérie Debord, porte-parole du parti Les Républicains, jointe par Julien Chavanne. Au Front National, Marion Maréchal Le Pen, députée du Vaucluse, s'est félicitée. Les Français en ont fini avec le duo des trahisons Hollande-Sarkozy. Ils ne prolongeront pas l'échec avec leur Premier ministre. Et oui, car Manuel Valls a désormais le champ libre pour se présenter à la primaire de la gauche. Hier, le Premier ministre n'a pas évoqué son avenir personnel. Il a simplement salué la décision d'un homme d'État. Et les Français, comment réagissent-ils? Eh bien, selon un sondage Harris Interactive, active pour RMC, plus de 8 personnes interrogées sur 10 approuvent cette décision du chef de l'État. Nous reviendrons bien évidemment sur cette annonce, ses conséquences et les réactions politiques dans 7 minutes à présent. Édition spéciale à suivre avec Alexis Fricker, le service politique de RFI et leurs invités. Un léger répit hier pour les habitants d'Alep. La tempête qui s'abat sur le nord de la Syrie a perturbé les raids de l'aviation syrienne. Mais les combats se sont intensifiés au sol et l'armée a déployé des troupes d'élite. La situation humanitaire reste donc extrêmement préoccupante pour les 200 000 civils toujours assiégés dans les quartiers rebelles. Un drame dénoncé en France notamment, tous les jeudis soirs depuis le début de l'offensive de reconquête le 6 octobre, quelques dizaines de Parisiens manifestent en soutien aux civils d'Alep. Hier, ils ont été rejoints par le maire de la ville. Reportage Stéphane Lagarde.
19h, les cloches de l'église Saint-François-Xavier à Paris sonnent le rassemblement. Une soixantaine de silhouettes tout au plus patientent dans le froid parisien. Alep, Syrie, l'indifférence tue, dit la pancarte de Véronique, qui milite dans une association de défense des droits de l'homme.
C'est des manifs désespérés, on est très peu nombreux. Mais il ne faut pas se désespérer des manifs, puisque c'est la seule chose que nous avons.
Manque de mobilisation et des slogans qui glissent sur les passants. Le marchand de fleurs a sorti les sapins de Noël. À leur côté, 4 uniformes surveillent la progression de la cohorte fragile. Pierre ne supporte plus de voir la population d'Alep souffrir dans sa télé.
C'est proprement inimaginable ce qui se passe et l'absence de réaction, c'est obscène. Il y a eu ces reportages qui montrent les secouristes dans des immeubles où les gamins... Excusez-moi, mais...
Comme ce professeur des universités, la plupart des présents trouvent difficilement les mots pour décrire l'horreur en Syrie. Arrivé devant l'ambassade syrienne, on allume les bougies et on écoute le maire d'Alep raconter comment la rébellion a commencé en 2011.
Les manifestants ont commencé avec des fleurs et des bougies et la réponse c'était par les balles.
Depuis, la révolution a viré à la tragédie. Zouer, 70 ans, fait partie des rares Syriens qui ont fait le déplacement.
On a un proverbe qui dit « quand le mouton tombe, les couteaux sont nombreux ».
Des couteaux trop nombreux qui s'en prennent aux civils en Syrie, dans la différence des klaxons parisiens qui déjà repoussent les manifestants.
Et ce soir, un autre rassemblement de soutien aux habitants d'Alep se tiendra place de la République à Paris. Un chien enragé au Pentagone, l'image est prometteuse. Chien enragé, Mad Dog en anglais, c'est le surnom donné par ces hommes au général James Mattis. Ce militaire qui s'est illustré en Irak et en Afghanistan va être nommé secrétaire à la défense aux États-Unis. Donald Trump l'a annoncé hier lors d'un meeting dans l'Ohio. L'une des étapes de sa tournée de remerciements aux électeurs entamée hier. Anne-Marie Capomaccio, vous avez suivi ce déplacement. Alors c'est vrai, la foule n'était pas aussi nombreuse que pendant la campagne, mais Donald Trump n'a pas boudé son plaisir.
En effet, Grégory, Donald Trump a gagné. Il est heureux et il l'a dit à ses électeurs qui l'ont accueilli en scandant « Construisons le mur ». Ils étaient quand même plusieurs milliers à Cincinnati, Ohio, pour applaudir leur champion qui a délivré un discours attendu. « Nous allons rendre sa grandeur à l'Amérique, ramener les emplois, annuler et remplacer Obamacare et tous les accords commerciaux et mater la presse malhonnête ». Donald Trump a manifestement pris goût au meeting. Il sait aussi qu'il doit sa victoire à cette foule d'anonymes et non au Parti républicain qui ne l'a pas aidé, c'est un euphémisme. Hier soir, Grégory, Donald Trump a renouvelé sa promesse, je le cite, de gouverner pour le peuple et par le peuple, une Amérique où tous les citoyens vont s'unir et pour ce faire, il faut, dit-il, bloquer toute immigration qui n'embrasserait pas les valeurs de cette société.
Et un peu plus tôt dans la journée, Donald Trump a fait étape dans l'Indiana. Il a prononcé un discours à l'usine Carrier qui vient de renoncer à délocaliser 1 000 000 d'emplois vers le Mexique.
Oui, et là encore, Grégory, le président élu a prononcé un discours de victoire. Il a raconté à un public conquis comment il avait décroché son téléphone pour appeler le PDG de cette usine afin de lui demander de ne pas délocaliser les emplois. Et bien entendu, ce dernier a accepté. Alors l'histoire est un peu moins simple. L'Indiana et le futur vice-président, alors gouverneur de l'État, Mike Pence, avaient fait une offre financière à Carrier pour rester aux États-Unis. Carrier avait refusé. Mais entre-temps, le ticket Trump-Pence a gagné la présidentielle. Et vous l'aurez deviné, le PDG de l'usine a changé d'avis. Alors quoi qu'il en soit, cette nouvelle est une première victoire pour Donald Trump qui aura besoin désormais de répondre aux attentes des électeurs auxquels il a fait de nombreuses promesses.
Merci Anne-Marie Capomaccio à Washington. Ban Ki-moon a présenté hier les excuses de l'ONU au peuple haïtien pour le rôle joué par l'organisation lors du déclenchement de l'épidémie de choléra en 2010. Près de 9 000 Haïtiens sont morts. Des excuses mais pas de reconnaissance officielle de la responsabilité de l'ONU alors que selon de nombreux experts, la maladie a été apportée et propagée par des casques bleus népalais. Le Brésil entre dans une nouvelle zone de turbulence politico-judiciaire. Hier, le tribunal suprême fédéral a décidé que le président du Sénat, Renan Calheiros, devrait être jugé pour détournement de fonds. Une affaire qui remonte à 2007 et dans le même temps, le géant du BTP Odebrecht a officialisé un accord conclu avec la justice. Le groupe impliqué dans le scandale de corruption Petrobras va verser une amende de 2 milliards de dollars et plusieurs dizaines de ses cadres et dirigeants ont obtenu des réductions de peine en échange de révélations. Les donateurs pour Madagascar promettent de verser 6 milliards 400 millions de dollars sur 4 ans, annonce faite hier au premier jour de la conférence des bailleurs de fonds qui se tient à Paris. C'est donc plus que les 5 milliards et demi souhaités par la Grande Île, des fonds qui serviront à financer de grands projets de développement et pour rassurer bailleurs et investisseurs privés, Madagascar a mis en place une batterie de mesures pour assainir son climat des affaires, comme l'explique le ministre malgache de l'économie et du plan, Erilanto Ravelo-Harrison.
Pour un pays qui sort de la crise, la première chose à faire, c'est de réinstaurer l'autorité de l'État. Et ça passe, bien sûr, par la conception d'une nouvelle loi anticorruption. Nous avons également conçu une loi sur le recouvrement des avoirs, sur le blanchiment d'argent, tout simplement pour que l'économie soit revitalisée sur la protection des biens de l'État. Et on va toucher le délinquant, pas uniquement sur sa personne, mais sur son patrimoine. La loi anticorruption est déjà en vigueur. Les pôles anticorruption sont déjà en train d'être mis en place. C'est déjà voté par le Parlement. La loi sur le recouvrement des avoirs, sur l'aspect blanchiment, est en cours d'être validée par le Parlement. C'est déjà validé au sein du Conseil des ministres. Bien sûr, ça va d'abord rassurer les investisseurs parce que leurs investissements seront sécurisés. Ça aura l'avantage de mieux maîtriser le flux financier au niveau interne qu'au niveau externe de Madagascar.
Le ministre malgache de l'économie et du plomb au micro de Gaël Lalex. Il est 7h10 ici à Paris. Voilà pour l'actualité mondiale. Retour à présent à l'actualité en France avec notre édition spéciale. Et vous, Alexis Fricker.
Merci Grégory Lesca, à tout à l'heure.
Aujourd'hui, je suis conscient des risques que ferait courir une démarche, la mienne, qui ne rassemblerait pas largement autour d'elle. Aussi, j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle, au renouvellement donc de mon mandat.
François Hollande ne remettra donc pas son mandat en jeu l'an prochain à la présidentielle, édition spéciale sur l'antenne de Radio France Internationale jusqu'à 8h30, à suivre aussi sur internet rfi.fr. Avec nous en studio, Véronique Rigolet, chef du service politique de RFI. Bonjour Véronique.
Bonjour.
Et par téléphone, Olivier Roucan, politologue, chercheur associé au CERSA. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Édition spéciale sur RFI.
Alors on va commencer avec vous Olivier Roucan, est-ce que vous avez été surpris par cette annonce, cette décision de François Hollande hier soir ?
Écoutez, moi je pensais que François Hollande rationnellement évaluait et évaluerait jusqu'au dernier moment les ressources dont il pouvait disposer. Je ne m'attendais pas à une décision aussi rapide, il avait encore un peu de temps. Donc la surprise elle vient surtout sur le moment, il est vrai que la pression avait été forte, mais pas sur le sens de la décision, sa candidature n'avait rien d'automatique.
Il avait du temps, effectivement, la date limite c'était le 15 décembre. Il annonce tout de même ça, un peu comme un symbole, le premier jour, le jour du dépôt, d'ouverture du dépôt des candidatures pour cette primaire ouverte.
Oui, alors dans les calculs qu'il a dû faire, il y a bien sûr l'idée que il faut essayer de préserver des chances pour son camp, pour le candidat qui portera, on va dire, les propositions de la gauche, et pour que les primaires se déroulent, ou la primaire plutôt socialiste se déroule correctement. Je pense que ça a dû compter dans sa décision. Il y a un deuxième élément qui a dû compter, évidemment, c'est la gestion de l'État, l'intérêt de l'État. Et dans le contexte grave que nous traversons, la France a besoin de chefs de l'État actifs. Donc dans la mesure où il ne se présentait pas, eh bien, il peut sereinement disposer du temps qu'il reste pour continuer à tenir la maison.
Malgré tout, Olivier Roucan, est-ce que c'est un choc ? Est-ce qu'on peut, on peut parler d'une certaine manière d'une jurisprudence Hollande, vu que pour la première fois, c'est un président sortant qui ne se représente pas alors qu'il pourrait le faire ?
Je ne reprendrai pas le terme de jurisprudence qui est juridique, or là on est dans la politique.
Un précédent.
Mais si vous voulez, c'est inédit dans la mesure où il y a eu cette pression au sommet de l'exécutif, incluant même des ministres finalement, qui se sont désolidarisés de leur travail et de leurs collègues progressivement et qui apparaissaient déjà comme étant des rivaux éventuels d'un président dans le cadre d'une primaire. Donc ça c'est assez inédit. Ensuite, l'affrontement duel au sommet de l'État, il a déjà eu lieu, mais là, c'était au sein d'un même parti et sur une ligne politique qui était la même. Mais en fait, cet épisode, ce qu'il a d'inédit, c'est qu'il indique à quel point le Parti Socialiste, eh bien, on peut se poser la question de savoir si ça reste un parti de gouvernement. C'est-à-dire que la question qui est posée, c'est pas tellement François Hollande. La question qui est posée, c'est est-ce que la gauche a encore un parti de gouvernement capable et qui dispose du crédit pour gouverner. La question est vraiment posée.
Véronique Rigolet, vous êtes la chef du service politique à RFI. Alors, est-ce qu'on pouvait s'y attendre ? Est-ce qu'il y avait des informations qui avaient fuité, peut-être des indices sur cette déclaration de François Hollande ?
Très franchement, c'est une décision qui a pris tout le monde de court. Mmh. Hein, les journalistes et une grande partie de la classe politique. Moi, ce que j'en sais, c'est que seuls les proches, les très proches de François Hollande, étaient au courant, pas les autres. Par ailleurs,
très proche, un premier cercle.
Le premier cercle,
le tout
de
premier
François
cercle,
Hollande, oui.
C'est grognard d'une exemple, certaine manière, hein, Stéphane Le Foll, peut-être, Bernard Poignant.
J'imagine, les fidèles du président ont dû être mis au courant, mais c'est vraiment une minorité proche du président. Pour le reste, les autres n'étaient pas au courant. On a vu même dans les candidats qui concourent. La primaire, Montebourg, qui était en meeting hier soir, a été véritablement pris de court. Pour autant, est-ce que c'est une décision surprenante? Pas véritablement, c'est une décision en tout cas qui permet à Hollande de sortir par le haut. Il avait le choix, on le sait, entre une double humiliation, de se présenter à la primaire et de prendre le risque d'être battu par un Montebourg, et terminer de manière